Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur les chemins du vendredi qui vous emmène chaque semaine à la rencontre de ceux qui ont fait de la philosophie leur métier. La philosophie est-elle une vocation? Comment viennent les idées? Comment se fabrique un concept? Et quel rôle le philosophe doit-il jouer dans la cité? Voici aujourd'hui le portrait en acte et par lui-même du philosophe Paul Preciado. Bonjour à vous.
Bonjour Adèle.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie.
Merci.
Je vous ai présenté comme philosophe. Comment vous présentez-vous?
Oui, philosophe, pourquoi pas, c'est très bien, oui, philosophe. Parfois, je suis commissaire d'exposition. Parfois, il m'arrive plutôt d'être dans des collaborations artistiques. Mais oui, je suis philosophe.
C'est un métier, philosophe?
Pour moi, c'est devenu mon métier, oui. C'est devenu avec les années, c'est devenu un métier. Ouais. Au tout début, c'était, je pense, peut-être une passion interdite. Et par la suite, c'est devenu un métier.
Et qu'est-ce que ça veut dire avoir comme métier la philosophie?
Je pense que ça veut dire faire peut-être l'usage d'une tradition critique et du coup se servir de ces traditions pour essayer de se transformer soi-même, de comprendre le monde, de aussi les transformer peut-être. Voilà, mais pas une tradition qui serait totalement à l'écart des autres formes d'écriture. Pour moi, la philosophie, je pourrais dire, c'est à l'intérieur de l'écriture que ça se passe. Et donc, du coup, elle est vraiment très sans rapport avec d'autres formes d'écriture, la littérature, mais aussi la science, les droits, y compris en fait n'importe quel document qui est fait d'écriture. Donc je dirais que c'est une technologie des productions de subjectivité parmi d'autres.
Oui, vous dites que ça permet de se transformer. Est-ce que ça rend meilleur?
La philosophie, meilleure, j'aurais tendance à dire non. Meilleure, non. En tout cas, ça dépend en fait si c'est par rapport à des critères moraux. Probablement non. En tout cas, dans mon cas, je pense que ça ne m'a pas rendu
Parce qu'on dit que les philosophes sont des sages.
Ah oh là là, mais là, vous me posez des questions bien difficiles, en fait. Oui, parce que, oui, des coups, en fait, j'ai l'impression que vous parlez peut-être d'une certaine tradition philosophique. Bien sûr, il y a une tradition philosophique dans laquelle les philosophes sont des sages, mais il y a aussi d'autres traditions philosophiques dans laquelle les philosophes sont des aventuriers, des traîtres, des menteurs, des gens du théâtre, des performeurs, voilà.
Et vous, vous êtes sage ou performeur?
Je pense que je suis plus performant que sage, même si, enfin, il faut dire, vous les voyez, enfin, que je suis quand même, j'ai eu quand même une éducation très, très classique et très, très conventionnelle, très catholique quand j'étais enfant. Et je pense qu'il y a des traces.
Je le vois pas, en tout cas.
qui sont restées de cette éducation, oui.
Alors, on va remonter le fil avec vous de votre histoire philosophique. On va passer 50 minutes ensemble pour comprendre votre pratique de la philosophie, en remontant jusqu'à votre rencontre avec la philosophie, en questionnant vos influences philosophiques et extra-philosophiques, en pénétrant dans votre atelier de fabricant de concepts, en réfléchissant au rôle politique du philosophe, tout ça en moins d'une heure. Mais d'abord, s'il fallait identifier une chose qui vous est chère, un thème, une entité, une expérience qui compte pour vous et autour de laquelle s'articule votre travail, ce serait sans doute le corps, votre propre corps comme lieu de changement, le corps comme lieu d'une instrumentalisation, le corps sexuel, le corps biologique, c'est toujours le corps qui vient en premier chez vous.
Oui, les corps, mais pas comme on l'entend souvent, c'est-à-dire pas comme en tant qu'objet anatomique. Ça, je dirais que c'est une des fictions du corps qui a été inventée après la Renaissance. Une fiction politique vivante. Pour moi, les corps, j'appelle ça plutôt, j'essaye de déplacer la notion du corps et travailler avec une notion que j'appelle somatech. C'est-à-dire, en fait, une archive politique vivante. Et dans cette archive politique vivante, il y a un ensemble des représentations, des cadres épistémiques, des discours, parfois des lois, parfois des institutions, parfois des instruments, des techniques, qui sont pas toujours en continuité, qui sont pas toujours en alliance les uns avec les autres. Il y a aussi des ruptures très violentes. Et donc, nos corps, si on les entend comme ça, moi je les vois vraiment comme ces fictions politiques vivantes sont les résultats de ces alliances improbables et de ces luttes des différents régimes politiques, des différentes techniques et différentes représentations. En tant que philosophe, je travaille, j'essaie de travailler en fait avec cette archive politique vivante.
En dehors de toute forme de catégorie, c'est ce qui revient beaucoup dans votre travail. Je cite quelques livres que vous avez écrits. Un manifeste contrasexuel, c'était en 2000. Un testo junkies, sexe, drogue et biopolitique en 2008. Pornotopie, qui portait sur le magazine Playboy et l'invention de la sexualité multimédia en 2010. Et cette année, Un appartement sur Uranus, qui reprend les chroniques que vous avez publiées dans Libération entre 2013 et 2018. Et on trouve d'ailleurs dans ce livre quelques lignes qui vous présentent. Alors avant d'en venir à votre rapport à la philosophie, je lis cette présentation. Vous dites « Je ne suis pas un homme, je ne suis pas une femme, je ne suis pas hétérosexuel, je ne suis pas homosexuel, je ne suis pas bisexuel. » Je suis un dissident du système genre-genre. Je suis la multiplicité du cosmos enfermé dans un régime politique et épistémologique binaire et je crie devant vous. Je suis un uraniste confiné dans les limites du capitalisme technoscientifique. Il y a tout votre travail dans ces quelques lignes en réalité. Le mélange d'une expérience hors catégorie, transgenre et un vocabulaire philosophique précis et technique.
Oui, peut-être c'est ça, mais je dirais... Pour moi, c'est pas une expérience extraordinaire. Moi, je pense que c'est
qu'est-ce qui n'est pas une expérience extraordinaire?
Le fait d'être trans, en fait. Moi, je pense que qu'elle soit une expérience qui est considérée aujourd'hui encore comme pathologique au sein de la médecine, ou qu'elle soit catégorisée, ou plutôt normalisée par la loi, ou qu'elle soit l'objet d'une exclusion sociale ou politique. Mm-hmm. Pour moi, ça fait, je le vois pas comme quelque chose d'extraordinaire. Pour moi, c'est ma vie. Et du coup, elle est totalement, c'est vraiment, voilà, mon tissu quotidien. Je ne peux pas la voir comme quelque chose d'extraordinaire. Après, c'est vrai que j'ai essayé de faire de cette lieu de vie comme une plateforme d'expérimentation philosophique. Ça, c'est vrai.
D'expérimentation, ouais.
Ouais, d'expérimentation philosophique pour moi. Oui, je m'intéresse en fait aux philosophes, à la tradition de la philosophie qu'ils appellent autocobayes, c'est-à-dire des philosophes qui ont pris leur propre corps, leur propre subjectivité comme lieu d'expérimentation philosophique. Et ça, il y en a une forte tradition.
On trouve qui, par exemple, parmi ces philosophes?
Par exemple, Freud. Il était... tout ce que Freud a fait, je ne parle pas ici de Freud psychoanalyste, en fait, en tant que créateur de l'institution psychoanalyste qu'on va connaître après, mais plutôt le Freud écrivain, c'est auto-analysant, et qui a travaillé évidemment aussi en proximité. Il était vraiment... Enfin, je l'appelle la cloaca maxima, parce que j'adore Freud en fait en tant qu'écrivain, mais il avait une telle avidité des substances et des techniques qui étaient disponibles à son époque que moi il me fascine, c'est-à-dire qu'il voit la cocaïne, il s'est dit je vais en prendre, il voit une opération des nez et il dit j'y vais, enfin, et donc du coup parfois je me sens dans ce sens-là très freudien parce que je me dis mais voilà, je suis vraiment très fou parce que immédiatement quand je vois une technique de modification de la subjectivité, j'ai vraiment cet intérêt. Mais pour moi c'est la même chose que la philosophie, c'est-à-dire que la philosophie en tant que technologie, c'est-à-dire c'est l'écriture en tant que technique de production de la subjectivité, pour moi c'est la même chose que la testostérone ou que c'est pas aucune autre substance. Donc voilà, je m'inscris dans cette tradition des philosophes autocobayes, et donc dans laquelle il y a Freud, mais il y a aussi évidemment Benjamin avec les hachis, ou évidemment aussi Burroughs plutôt en fait avec les drogues en fait plus dures, oui, etc., ou les usagers de LSD. Donc il y a en même temps, vous me direz en fait peut-être est-ce que la testostérone n'est pas une drogue, mais oui, dans notre société c'est quelque chose de très étrange, justement quelque chose qui m'a surpris quand j'ai commencé en fait à prendre la testostérone. La testostérone dans notre société, elle est traitée comme une drogue dure, c'est-à-dire que en gros on ne peut pas en fait accéder à cette substance, pourtant une substance en fait connue et transformée en entité pharmacologique en fait après les années 50. On ne peut pas accéder à ces substances de manière très simple. Il faut séduire dysphorie de genre, ils font donc accepter une pathologie psychologique et mentale, et à partir de là rentrer dans un processus, dans un protocole médical très surveillé des changements des sexes. Et donc à partir de ce moment-là, pour moi effectivement il y a une gestion politique extrêmement précise des hormones aujourd'hui, par exemple, c'est pas du tout la même chose qu'on en veut accéder à la progestérone ou l'estrogène. Mmh. C'est-à-dire que, voilà, si vous allez, n'importe quelle fille des 15 ans qui va chez le médecin, bah, elle ressort avec la pilule dans sa poche. Peu importe en fait si elle avait envie de la prendre ou pas.
Et vous êtes en train de dire que vous avez commencé à prendre la testostérone par curiosité, comment prendre la drogue et pas dans le but de changer de sexe.
C'est-à-dire que pour moi, la testostérone est venue d'abord et après. Je n'étais pas.
C'était vraiment une expérience, comme vous le dites, une expérimentation.
Oui, c'était une expérimentation. Il y avait à l'intérieur de cette expérimentation, effectivement, un désir de transformation. Ce qui est pour moi est la clé aussi de la philosophie.
Voilà, parce qu'en fait, je vous ai posé une question sur la philosophie, on est parti sur la testostérone. Non, ça oui, veut dire que vous avez le même rapport entre les deux.
Oui, parce qu'en fait, pour moi, la philosophie, c'est les désirs de se transformer soi-même en inventant des techniques, parfois des techniques de la conscience, parfois des techniques du corps, des techniques qui passent par l'écriture, mais qui devient à un moment donné des techniques de soi, des techniques du corps. Et donc, effectivement, il y a eu, et pour moi, évidemment, dans les cas de l'écriture de Testo Junkie, d'un de mes livres, en fait, évidemment, quelque part, j'ai dû écrire ces livres pour être capable, en fait, de prendre la testostérone comme je voulais le faire. Parce que il y avait, je suis rentré, en fait, donc, dans la construction d'un protocole dissident, qui n'était pas un protocole médical, dans lequel j'ai décidé d'écrire, absolument d'écrire et écrire pour moi les processus de transformation qui entraînaient la prise des petites doses de testostérone pendant 9 mois. Et donc, je pense que dans ces cas-là, en fait, l'écriture était aussi importante que la testostérone.
Mmh. Vous vous souvenez de votre première rencontre avec la philosophie ?
Avec la philosophie, c'est-à-dire que pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas qu'on a un texte philosophique. C'est pas, parfois il y a quelqu'un qui dit voilà histoire de la philosophie et donc tu ouvres tu vois, mais c'est pas comme ça que j'ai rencontré la philosophie. Moi je, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai grandi dans un milieu très catholique et donc les textes qui étaient à disposition chez moi.
En Espagne?
Oui, en Espagne, en fait, comme vous entendez par mon accent. Les textes qui étaient à disposition chez moi, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas des livres chez moi, d'autres que la Bible ou que les livres, en fait, soi-disant des saints-pères. Enfin, tout ça, ça peut paraître quand même assez ridicule, enfin, dans ces contextes. Mais voilà, c'est les premiers livres de philosophie que j'ai lus, c'était des livres, en fait, effectivement, théologiques, qui pourtant étaient philosophiques. Et donc, ma rencontre avec la philosophie passe par les livres de Saint-Augustin, qui après m'obsédait beaucoup, en fait, parce que je pensais que Saint-Augustin, en réalité, était presque, en fait, dans sa conversion religieuse, était presque parti dans un processus de changement de sexe.
Enfin, Saint-Augustin ?
Saint-Augustin, oui, tout à fait, parce qu'en fait, quand il décide, en fait, de se convertir au christianisme, en réalité, il va transformer totalement sa subjectivité, jusqu'au point qu'il va transformer aussi son désir sexuel. Parce qu'il passe d'être un homme, en fait, assez libidineux et intéressé par les sexes à devenir un homme totalement chaste. Et donc, voilà, on peut lire aujourd'hui les confessions, les aveux, en fait, comme dit Frédéric Boyer. Mmh. On peut les lire comme, pour moi, comme un processus de transition.
Oui, pas d'un sexe à l'autre, mais d'un changement de sexualité.
Un changement des régimes sexuels.
C'est ça.
Est-ce que je me suis toujours intéressé par les philosophes, les écrivains, qui sont à la limite, au seuil entre deux régimes épistémologiques. Peut-être parce que nous sommes aujourd'hui aussi à la charnière entre deux régimes épistémologiques. Un régime qu'on essaye plus ou moins de quitter et un autre qu'on ne sait pas encore qu'est-ce qui va devenir. Mais voilà, c'est des personnages comme ça. Donc, du coup, Saint-Augustin m'avait beaucoup intéressé. Ouais. Et après, Guillaume d'Aucun aussi. Donc, voilà, mes références philosophiques et mes amours philosophiques d'enfance sont plutôt des théologues, on va dire, en fait, qui est des philosophes. Après, je me suis effectivement passionné par Nietzsche. Et c'est après, en fait, quand j'avais 17-18 ans, que j'ai rencontré Foucault, qui était effectivement une référence totalement interdite dans les milieux où j'ai étudié la philosophie. Et c'est comme ça, en fait, que...
Vous l'avez rencontré où, Foucault?
J'ai
rencontré... parlez de l'homme ou de ses écrits?
Non, je parle pas de l'homme, en fait, j'ai pas rencontré l'homme, en fait, non. Des tout, mais j'ai rencontré ses écrits, mais d'une manière, en fait, c'était pas, c'est, par exemple, en fait, on étudiait pas Foucault, en fait, c'était plutôt interdit ou plutôt mal vu. Et donc, voilà, j'ai tout de suite, en fait, commencé à lire l'histoire de la folie, par exemple, en fait, ça m'a parlé immédiatement, même si par la suite, comme j'ai travaillé plus, par exemple, avec Derrida, ces rapports de proximité avec Foucault n'étaient pas exactement trop acceptables non plus. Voilà, parce que Derrida n'était pas effectivement en grande proximité avec Foucault.
Et à partir de quand avez-vous décidé d'en faire votre métier ?
Oui, mon métier, ça c'est... je ne sais pas, parce que pour moi l'idée des métiers... Je ne sais pas si j'ai une idée de métier, en fait. C'est-à-dire que je suis parti, j'ai étudié en fait la philosophie en Espagne avec les jésuites. Bon, on va laisser de côté les raisons pour lesquelles j'ai fait ça, mais c'était le cas.
Vous de voir.
Bon, oui, parce qu'en fait, mon père ne voulait absolument pas que je fasse la philosophie. Donc, il m'a dit, tu feras soit la médecine, soit tu seras avocat. Donc, j'ai dit non, absolument pas, c'est pas possible. Et donc, je me suis présenté à un concours des jeunes philosophes qu'il y avait dans ma ville, à Burgos, dans le nord de l'Espagne. Donc, c'était un concours catholique. Et donc, j'ai gagné ces concours, mais les prix étaient d'étudier la philosophie dans une institution catholique. Donc j'ai choisi les jésuites, et c'est avec les jésuites qui était, il faut dire, je pense, un enseignement de la philosophie extraordinaire. Que, c'est-à-dire, j'adore mes profs jésuites, je les salue ici parce qu'ils sont vraiment, ils ont été merveilleux, ils sont encore certains vivants, parce qu'ils étaient surtout en fait des lecteurs de Marx, ils étaient dans la théologie de la libération, et donc c'est comme ça que je suis pas simplement rentrer dans la philosophie, mais aussi rentrer dans la politique, parce que mon milieu familial n'était pas du tout en fait politisé, en tout cas pas du tout à gauche, et c'est justement paradoxalement que je suis rentré en politique et en philosophie, peut-être dans ma manière particulière de faire la philosophie, avec la théologie de la libération, et on a beaucoup lu Marx, et c'était assez génial, mais il y avait quand même une limitation. La limite était que, à l'époque, j'étais une femme, j'étais une fille, et donc c'était impossible, totalement impossible, en fait, dans les cadres de l'université des jésuites, en tant que fille, faire une thèse de doctorat, comme j'ai souhaité le faire à l'époque. Et donc, je suis parti aux États-Unis avec une bourse Fulbright. Et là, ça a été une transformation radicale.
En 1991, vous partez à New York, oui, et vous rencontrez cet homme.
Allô? Yes. There will be a small seminar tomorrow afternoon. It's a kind of closed seminar, but you may come if you want. Okay, I'll be very glad to meet you. Goodbye. Alors ça, c'était une voix fantomatique. C'est quelqu'un que je ne connais pas, qui aurait pu me raconter n'importe quelle histoire.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, on vous raconte n'importe quelle histoire aujourd'hui, mais surtout, et pas n'importe laquelle, celle de Paul Preciado, le philosophe qui est avec nous aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Profession Philosophe. Nous venons d'entendre la voix de Jacques Derrida, un extrait d'un documentaire, un Ghost Dance, dans lequel il parle de son rapport au cinéma comme d'un rapport fantomatique, et au milieu du documentaire, un étudiant l'appelle, il décroche, et vous avez travaillé avec lui, donc j'imagine que vous avez assisté à ce genre de scène, Paul Preciado.
Totalement, parce que Derrida, c'était un prof extraordinaire, quelqu'un d'extrêmement généreux, et que je suivi des manières mais totalement folles et passionnées pendant les années que j'étais étudiante en fait à New York. Et il donnait énormément de conférences, pas uniquement ses cours, mais aussi énormément de conférences un peu partout, et j'ai le suivi pendant 4 ans. Je pense que j'ai assisté à chacune de ses conférences jusqu'au moment où il m'a dit, mais voilà, je vous vois toujours là, alors qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous voulez faire? Et donc je suis parti justement avec lui dans l'idée de faire cette thèse de doctorat sur la conversion de Saint-Augustin en tant que processus de transformation, y compris, enfin pas simplement épistémologique ou religieuse, mais y compris sexuelle. Et ça a été vraiment un rapport, je dirais, exceptionnel pour moi, parce que c'est la personne qui m'a appris à lire dans les sens les plus stricts du terme. C'est-à-dire que c'est avec Derrida que j'ai compris comment il travaillait. Justement, il avait parfois une dizaine de livres ouvert devant lui, et c'était vraiment comme voir Glenn Gould au piano, parce qu'en fait on avait l'impression qu'il avait quatre mains tout d'un coup. Parfois il y avait même deux ordinateurs devant lui, et il avait les bio appels, les premiers ordinateurs appels, et ouais. il tapait à la machine à une grande vitesse, et en même temps il écrivait parfois à la main, et tout ça en fait avec, il pouvait avoir un livre des vampires devant lui, à côté d'un texte d'Aristote, à côté d'un texte de Jean Genet, tout ça était totalement mélangé. Et effectivement, ça a transformé ma manière de faire, justement, de penser. Si vous pensez à un métier, c'est peut-être en fait en voyant Derrida que je me suis dit, peut-être je pourrais faire ça comme un métier. Parce que, et finalement, c'est assez drôle, parce que maintenant, c'est maintenant que je pense, hein, c'est que finalement, je me suis fait une vie qui n'est pas très différente à, à celle de Derrida, avec toute la différence, parce qu'il était un grand, grand maître. Mais c'est vrai qu'il voyageait énormément, qu'il était tout le temps, en fait, entouré par les étudiants. Et moi, je me disais, mais cet homme, il est jamais fatigué, je comprends même pas. Et maintenant, effectivement, je vis à peu près
c'est vrai.
Très similaire, c'est-à-dire que je voyage énormément aussi, toujours avec mes livres d'un endroit à l'autre. Et,
mais donc, et c'est ouais. plus sa méthode de travail, l'homme, que sa pensée qui vous a influencé?
Non, sa pensée m'a beaucoup influencé. Mais c'est vrai qu'il avait, il y avait aussi, en fait, un cercle des Derridiens, on va dire, qui pratiquait une déconstruction assez stricte dans les modalités des fonctionnements philosophiques. Et pour moi, ça ne me convenait pas. Parce qu'en fait, c'est en même temps qu'on suis arrivé à New York aussi. Ça n'a pas été uniquement l'impact de travailler avec Derrida ou de le côtoyer ou de l'écouter. Mais c'était surtout aussi les moments où je me suis beaucoup investi en fait, dans les politiques à l'époque, surtout lesbiennes radicales, aussi dans les politiques des luttes contre l'épidémie de sida à l'époque aux États-Unis. Et donc c'est vrai que j'avais besoin de, peut-être de cette philosophie de Derrida et de sa manière de lire, sa manière par exemple de pas faire la différence entre la fiction et la philosophie, même une certaine... quelque chose d'impudique en fait chez Derrida, même s'il était très
impudique.
Oui, ouais. Dans son écriture, évidemment, dans son écriture extrêmement, pour l'époque, extrêmement féminine, entre guillemets. C'est-à-dire que justement, il avait cette manière d'écrire qui pouvait être beaucoup plus proche de Lin Sixou que de n'importe quel philosophe de l'époque, homme.
Et donc, qu'est-ce que ça veut dire écriture féminine?
Ben, écriture féminine, justement, je pense qu'à l'époque, avait beaucoup de sens. Hein. À l'époque, c'était vraiment une articulation politique de la philosophie. La manière d'affirmer, de faire rendre visible dans la philosophie l'effacement historique des femmes. Et donc, toute une voie. Et Derrida était à la recherche de cette voix. Dans ce sens-là, pour moi, Derrida, il avait une voix trans. Il était trans parce qu'il était à la recherche de cette voix féminine qui avait été effacée. Et cette voix, parfois, était la voix de l'arabe, parfois était la voix de l'africain, la voix des non-européens, la voix des multilinguismes. Et pour moi, il y a une grande proximité avec la recherche que nous, j'allais dire nous maintenant, les activistes des genres de la sexualité, on était en train de mener ailleurs. Mais j'avais besoin justement de pouvoir pratiquer cette philosophie, cette déconstruction avec plus de liberté qu'est dans les cercles derridiens.
Et donc, d'où peut-être l'ouverture de votre cercle, cette rencontre avec Judith Butler.
Une idée théorique n'émerge pas de l'intérieur. On la découvre dans son paysage qu'elle fait déjà partie du monde. On entreprend alors d'en tracer les contours ou d'en éprouver les vicissitudes. Ce n'est pas exactement que l'on conçoit une idée, on aborde une idée ou c'est elle qui nous aborde. Dans tous les cas, on constate que cette idée nous a travaillé beaucoup plus longtemps que nous ne l'avons travaillée.
Les idées nous travaillent plus que nous ne les travaillons. C'est Judith Butler, c'était en 2015 lors de la réception de la décoration de chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Elle a fait son discours en français, elle est américaine mais elle a parlé en français. Est-ce que, je sais que son travail a compté pour vous, est-ce que la personne aussi, vous l'avez aussi rencontrée?
Oui, bien sûr. Non, Judith Butler était absolument cruciale pour moi. Je pense que je ne serais pas ni philosophe, ni qui je suis aujourd'hui sans Judith Butler. Je pense qu'elle nous a permis à toute une génération, justement, de trouver un espace discursif dans lequel on pouvait articuler un certain nombre de problèmes qui n'était pas pensable ni dans le féminisme traditionnel, ni dans la philosophie traditionnelle. Et pour moi, Judith Butler, je pense qu'aussi elle était très importante parce que c'est la première, en fait, qui a essayé peut-être tisser la philosophie de Derrida et celle de Foucault. Pour penser la production du genre, la normalisation du genre. Mmh. Et donc je pense que je vais penser avec elle, après elle. Je ne peux pas le dire autrement. Donc pour moi, c'est une grande gratitude et des reconnaissances en fait par rapport à Judith Butler, qui aussi, comme Derrida, est quelqu'un d'extrêmement généreuse. Et ils ont été tous les deux très importants pour moi. Parce que par exemple, Derrida, il m'a fait des lettres, des recommandations avec lesquelles j'ai passé à peu près toutes les frontières de tous les pays. Et Judith Butler, pareil, par exemple, elle était à la lecture de ma thèse, par exemple, en fait, tout simplement. Donc voilà, pour moi, c'est extraordinaire. Ouais.
Et donc, ce n'est pas simplement politique, c'est aussi un travail qu'elle fait, peut-être même d'abord, un travail sur la langue qui vous donne à l'époque, dites-vous, les outils pour vous-même
Absolument.
Formuler parce que, quelque chose.
Oui, parce qu'en fait, est-ce que, moi, quand je suis arrivé aux États-Unis en fait, en 91, c'est vrai qu'on était en train de vivre une transformation institutionnelle extraordinaire. C'est-à-dire que moi, je me suis inscrit en philosophie, mais aussi dans un département, d'abord c'était Women's Studies, donc des études des femmes. Après c'est devenu Feminist Studies, des études féministes. Mais 3 mois après, le département s'appelait déjà des genres, Gender Studies. 1 an après, le département c'était Queer Studies. Après, enfin tout ça, ça avait vraiment une prolifération des débats, parce que c'était pas uniquement Judith Butler, il y avait aussi les féministes noires, il y avait aussi des gens comme Nancy Fraser aussi, qui étaient vraiment, parce que j'étais au New School for Social Research à New York, et donc voilà, c'était je pense que c'était la première fois historiquement que des femmes lesbiennes pouvaient prendre la parole à l'intérieur du langage universitaire, donc de cette institution de production des savoirs tellement importante qu'est l'université, en tant que lesbienne, et justement être considérée en tant que philosophe. Et ça, c'était fondamental.
Les trois ensemble.
Parce que avant, effectivement, soit on était une activiste féministe, soit, bon, activiste lesbienne, je vous dis pas, parce qu'en fait, évidemment, à ce moment-là, on était à peu près, voilà, les derniers éléments de la Terre, hein, personne vous prenait en considération. Mais l'effet de pouvoir vraiment articuler une pensée à partir d'une position des pouvoirs, en réalité, parce que c'est celle de l'université, en tant que lesbienne, même si la position de Judith Butler n'a jamais été, par exemple, en fait, de se dire lesbienne, et là, dans ce sens-là, en fait, une position assez semblable, parfois, à Foucault.
Ouais.
Mais, bon, en même temps, elle a travaillé beaucoup à partir de son expérience aussi en tant que lesbienne, son histoire d'exclusion, son rapport, par exemple, elle aurait jamais travaillé sur les drag queens, sur les travestis, par exemple, si elle n'avait pas été en fait en boîte en tant que lesbienne, par exemple. Ça, c'est quelque chose dont elle parle très, très clairement.
Mais est-ce que ça a changé aujourd'hui? Parce que d'après ce que vous dites, on a l'impression que tout ça a eu lieu dans les années 90. C'est pas très différent d'aujourd'hui, voire même c'est peut-être plus compliqué encore aujourd'hui qu'à l'époque, ou pas?
C'est-à-dire le fait
de pouvoir travailler, comme vous le dites, et de revendiquer 3 aspects de votre travail, féministe, lesbienne, philosophe, et de pouvoir évoluer dans ce cadre-là. Aujourd'hui, il y a encore des gender studies aux États-Unis.
Ouais.
Il n'y en a pas en France. Dans quelle mesure est-ce que ça a changé pendant toutes ces décennies?
Bah, c'est-à-dire que aujourd'hui, en même temps, aux États-Unis, par exemple, les gender studies se sont institutionnalisés, mais ils se sont aussi normalisés beaucoup. Voilà, donc il y a eu quand même tout un processus de devenir bon enfant de l'institution universitaire, et aussi ils sont peut-être trop segmentarisés, ils sont trop écartés de la philosophie. Du coup, la philosophie, en fait, elle se protège, entre guillemets, avec des retours au réalisme, en fait, donc justement, pour moi, cet écart entre les études des genres et la philosophie,
ouais, ne
m'intéresse pas trop. Moi, je pense que, moi, par exemple, j'ai tendance à dire que je suis philosophe et que je suis pas du tout, en fait, spécialiste en genre, puisque je suis quand même un philosophe total, comme n'importe quel autre philosophe. On dit pas, en fait, d'un philosophe qui travaille, c'est pas sur la raison, qui était un philosophe qui travaille uniquement sur la raison. Non, on pense qu'il est philosophe. Donc, moi, je pense que ça reste quand même problématique.
C'est l'idée de communautarisme qui vous inquiète en philosophie?
L'idée de communautarisme, en fait, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que moi, je suis pas, parce que j'ai vécu, en fait, les processus des politiques d'identité à l'intérieur des mouvements politiques, des luttes politiques, en fait, à partir des années 80. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis plus intéressé, en fait, par les pratiques de désidentification critique que par la production d'identité. Ça, c'est vrai. Parce que pour moi, les problèmes, même si, effectivement, quand on dit politique d'identité, c'est pas la même chose parler des identités minoritaires et des identités hégémoniques. Et ça, c'est très important. Parce qu'évidemment, il y a des moments dans lesquels ces stratégies d'affirmation identitaire sont des stratégies de survivance, sont des stratégies de résistance à la normalisation et sont totalement nécessaires. Mais moi, je pense que cette segmentation en politique d'identité a été très problématique, en fait. Parce que ça fait qu'effectivement, il y a une différence très, très forte entre, d'un côté, les féminismes, d'autre côté les politiques gays, les politiques lesbiennes, les politiques trans. Après, en fait, donc, on dirait en fait que l'objectif de chaque philosophie ou de chaque mouvement est la production d'identité. Donc, devenir femme, mais absolument pas, c'est plutôt le contraire. Pour moi, en fait, s'il y a un objectif aujourd'hui des mouvements que j'appelle des révolutions somatopolitiques, justement, je les appelle des somatopolitiques parce que des révolutions des corps contre la norme. Des alliances, des corps multiples contre la norme.
Oui, c'est pas revendiquer une norme contre une autre. Constituer une norme comme revendication pour lutter contre une autre, pour vous, c'est en fait reproduire le même problème?
C'est pas une question de reproduire le même problème, c'est une question de savoir si l'objectif est la production d'identité ou si l'objectif est inventer des pratiques de liberté. Et si c'est inventer des pratiques de liberté, alors à ce moment-là, oui, on voit mal comment à l'intérieur du féminisme, des politiques gays, lesbiennes. Surtout, en fait, que soyons clairs, les notions féminité, masculinité, homosexualité, hétérosexualité, transsexualité, sexualité normale ou biologique aussi, en fait, ne sont pas des... ils n'existaient pas dans la nature. C'est-à-dire, ils ne sont pas empiriques, ne sont pas descriptives, mais plutôt, en fait, sont des épistémologies, des cadres cognitifs. Donc, si on finit par s'identifier avec les épistémologies des pouvoirs qui nous constituent, je pense qu'il y en a quand même un petit problème à long terme. Même si ça peut être à un moment donné, en fait, une stratégie. Et effectivement, c'est pas la même chose, en fait, affirmer ou essayer de revendiquer aujourd'hui en France une identité, par exemple, en tant que noir français et en tant que blanc français. C'est clair qu'il y a vraiment, en fait, une asymétrie importante que parfois ces politiques sont intéressantes et nécessaires, mais ne peut pas être l'objectif de nos luttes. Ni philosophique, ni politique.
On va essayer de voir ensemble comment vous mettez en place ces pratiques de liberté et de désidentification. Mais d'abord, si on s'approche de votre tête, de votre cœur, et si on questionne, comme vous l'avez dit, la philosophie a tout à dire et a tout à faire aussi avec d'autres disciplines qu'elle-même. On va écouter un ou deux sons qui viennent peupler peut-être votre imaginaire. D'abord, parce qu'on a écouté plusieurs voix, on va écouter une chanson, c'est celle-ci. Sommes-nous en train d'écouter Paul Preciado?
On écoute Anony, oui. Enfin, avant Anthony and the Johnsons.
C'est une chanson que vous aimez particulièrement?
Ouais, j'ai beaucoup écouté en fait dernièrement. Enfin, c'est-à-dire que j'étais, de la même manière que j'étais touché par des penseurs qui étaient un peu dans la brèche entre deux régimes épistémologiques. M'intéresse beaucoup en fait qu'est-ce qui se passe quand on essaye de chanter ou de parler, quand la voix change. Parce qu'il y a des moments en fait voilà où on reconnaît pas sa propre voix. C'est ce que ça m'est arrivé à moi quand mes cordes vocales en fait ont commencé à changer. Et donc, il y avait des moments où je pouvais pas du tout parler. Et donc du coup mon médecin m'a dit non mais il faut apprendre à parler par la chanson. Donc il faut chanter. Et voilà, donc du coup on s'est mis à chanter.
Mais là c'est une voix très aiguë là.
Ouais, mais c'est pas des chansons que je chante, mais c'est des chansons qui m'inspirent en fait, parce que justement pour moi la beauté c'est voir quelqu'un justement qui est capable de chanter avec une voix qui est pas du tout stable en fait, qui est pas du tout, qu'on peut pas du tout identifier en tant que féminine ou masculine. Blow me from the mountains into the sea. Blow my head out, explode my crystal guts. My blood, choose me tonight.
Je ne suis pas jeune, je ne suis pas mince, je ne conviens pas aux critères communs. Quoi. Je le sens tout le temps. Et je pense que plein d'autres filles se sentent de l'intérieur exactement comme moi. Pareil, très exclues du fameux grand marché à la bonne meuf. Quoi. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on est une fille et qu'on s'exprime, notamment sur le féminisme, premièrement, il faut qu'on dise qu'on n'a pas de problème avec les hommes, on n'a pas de problème avec la sexualité, on n'a pas de problème avec la séduction. Bah, pourquoi est-ce qu'on n'en aurait pas ?
Pendant que vous écriviez Testo Junkie, Paul Preciado, Virginie Despentes écrivait King Kong Theory. Quel rôle son travail et cette personne ont-ils joué sur votre travail et votre personne ?
Énorme, parce qu'on a passé ensemble plus d'éditions. Donc,
ensemble voilà. Comme couple ?
Oui, comme couple, ou comme je sais pas comment on peut appeler ça, mais oui. Enfin, c'est-à-dire qu'on était, on était plus qu'un couple parce qu'on a passé 10 ans en fait sans se quitter d'un seul minute quoi. Donc on a voyagé énormément, on a lu énormément, on passait voilà la pratique de lire des livres ensemble, quelque chose qu'il adore en fait parce que voilà un livre c'est aussi ça.
Lire avec quelqu'un,
j'aime beaucoup ça. En fait, on se faisait la lecture hein, parfois, elle me lisait des choses, je lisais des choses. Voilà, on a beaucoup lu ensemble et je pense qu'en partie ce qui s'est arrivé quand on a écrit ces deux livres, hein, c'est comme si Virginie s'était laissée contaminer en fait par ma bibliothèque. Féministe et transféministe, et moi je me suis laissé contaminer par sa puissance de la fiction en fait, et par aussi par sa radicalité peut-être dans la parole en fait, par l'envie de tout détruire en fait avec la parole, quelque chose qui je pense qui est assez semblable en fait, parce que finalement la déconstruction c'est ça hein. La déconstruction c'est vraiment une bonne méthode voilà que je pratique aussi par rapport à l'architecture en général. Moi je suis pour la déconstruction des choses en fait.
Mais déconstruire, c'est pas détruire.
Non, c'est pas détruire, mais c'est aussi détruire. Hein. C'est aussi détruire. C'est-à-dire que déconstruire, c'est pas simplement en fait prendre les petites blocs des choses en fait et les laisser comme ça, comme ci, comme ça. Non. Moi, je pense que justement, c'est là qu'est peut-être mon approche de la déconstruction est peut-être, je dirais, révolutionnaire, ok, qui était contaminée, on va dire, par peut-être Deleuze Guattari, par les fronts homosexuels d'action révolutionnaire, par la critique radicale des gauches des années 70. Donc, on peut pas d'un côté vouloir en fait que tout change. C'est-à-dire, on peut pas désirer une vraie transformation et en même temps rien faire. Bah, il va falloir.
Il faut être cohérent.
Exactement. C'est pas si c'est dans la cohérence, mais il faut y aller. Voilà. Et pour moi, cette force-là, la force d'à un moment donné, en fait, voilà, prendre un bon petit marteau et tout détruire, en fait, avec une grande jouissance. C'est vrai que c'est beaucoup venu, en fait, dans l'écriture avec Virginie. Le fait que ce livre-là, il écrivait en fait un chapitre, moi j'écrivais un chapitre, on était en train de se lire, et on était tous les deux assez préoccupés, parce qu'en fait elle était en train d'écrire, entre autres, sur les viols et la prostitution, ce qui sont vraiment deux lieux d'interdiction, en fait, dans la parole, pas simplement dans la parole publique, mais aussi dans la parole féministe, en tout cas l'était jusqu'à l'époque. Et moi, de l'autre côté, à l'intérieur de la philosophie, d'écrire un texte comme celui-là, tout le monde me déconseillait, tout le monde me disait, non, mais attends, c'est quand même, ce que tu fais, en fait, sur la pilule et tout ça, c'est très bien, mais enfin, s'il te plaît, si tu pourrais, en fait, enlever tes chapitres, en fait, un peu trop sexuels, ou voilà. Et donc, à la fin, je pense qu'on était tous les deux, on est partis dans la folie de la joie, de dire, allez, attends, on y va, voilà. Et donc, ces deux livres sont sortis à ce moment-là, et je pense que c'est bien que ça soit comme ça, en fait, que c'est maintenant qu'on en réponse, en fait, avec Virginie, parce qu'on en l'a fait, on s'est pas rendu compte, évidemment. Mais maintenant qu'on en réponse, on s'est dit, c'est assez drôle, finalement, c'est comme si on s'était fait chacun un cadeau à l'autre, en fait. Hein, voilà.
Mais comment la fiction, concrètement, a modelé votre travail?
La fiction, en fait, très fortement, parce que, c'est-à-dire que moi, j'étais pas jusqu'à l'époque peut-être un très grand lecteur de fiction. Parce que moi, je me perds très souvent dans la fiction, il faut le savoir.
Vous perdez?
C'est un trait autiste. En fait, j'ai des mal dans la fiction. Autant je peux lire Leibniz pendant 10 heures, j'ai aucun problème. Dans la fiction, je suis totalement perdu. C'est-à-dire que je répare à l'infini. Par exemple, j'ai essayé de lire 1000 fois Proust, mais je répare à l'infini parce qu'il me faut absolument un cahier à côté et prendre les noms de toutes les personnes qui vont apparaître.
Vous ne pouvez pas lire Dostoïevski, vous ne pouvez pas lire tous les romans,
mais, beaucoup de personnages. Si, mais je demande vraiment de mal, notamment avec tout ce qui est vraiment conversation dans les livres, ce qui est les spécialités des Virginie. Et donc, du coup, je pense que c'est beaucoup Virginie aussi qui m'a entraîné à lire autrement, à comprendre en fait la fiction autrement. Et peut-être aussi qui m'a donné la licence moi-même, qui m'a permis à un moment donné de me dire, bon, moi aussi, je peux, même si je ne comprends pas trop à la fiction, je peux peut-être faire la fiction aussi. Ou que peut-être, justement, je savais déjà que les rapports entre la philosophie et la fiction n'étaient pas aussi clairs que ça. Justement, c'est peut-être avec les féminismes, avec les Derrida, et avec Derrida que j'avais pris ça. Mais après, je suis allé même de manière excessive, en fait. Parfois, quand je regarde ces livres, j'ai dit, mais mon Dieu.
Ah oui, vous faites part? Votre propre livre?
Oui, mais vous savez, en fait, moi, j'ai fait, parce que j'ai écrit dans plusieurs langues, en fait, et comme vous voyez, en fait, quand je vous parle. Et donc, parfois, j'ai compris plus tard que mon stratégie, c'est justement écrire dans une langue, en fait, je vais pas totalement comprendre ce que je dis. Mmh. Enfin, en tout cas, où j'aurai pas, en fait, un regard par rapport à ma propre censure enfantine.
Qui se passe en espagnol pour vous?
Ouais, ça se passe beaucoup en espagnol, en fait. Donc, du coup, il y a beaucoup de parties des...
Donc, écrire sur vous en français, parce que c'est un livre très intime, vous racontez beaucoup de choses.
Ouais,
parfois, dans une langue étrangère, ça vous protège un peu?
Ça me protège un peu, j'ai pu l'écrire parfois en anglais, parfois en français. Et du coup, en fait, quand je me relis, je me dis, mais mon Dieu, en fait, je me relis en traduction en espagnol, par exemple, en fait, je dis, mais mon Dieu, mais comment j'étais capable de dire ça, mais c'est horrible, en fait. Voilà. Et donc, c'est une technique, parce que oui, la déconstruction, c'est aussi ça. C'est plus qu'une langue, disait Derrida. Donc, c'est aussi une manière, justement, de travailler comme avec un espèce de parlement, en fait, à l'intérieur de sa tête, puisqu'on est plusieurs, de toute façon.
Et comment vous travaillez, justement? À quel moment est-ce que vous vous dites, tiens, là, cette idée, je veux la coucher sur le papier?
En fait, ça m'intéresse comme question, parce que, justement, là, les centres Pompidou, en fait, m'a proposé d'être philosophe de l'année pour l'année 2019-2020. Et donc, je me suis dit, en fait, que j'avais besoin d'un atelier. Et donc, là, les gens du centre Pompidou m'ont dit, mais enfin, un atelier, ça, c'est pour les artistes. Mais pour moi, un philosophe, alors que les artistes aujourd'hui n'ont plus besoin d'atelier, la plupart, ils n'ont plus besoin d'atelier. Moi, je pense que les philosophes, on a besoin d'un atelier. Parce que, d'une part, je travaille avec une grande quantité de textes, puisque je travaille beaucoup aussi avec l'histoire de la médecine, l'histoire des représentations de corps. Donc souvent, j'ai vraiment des dizaines et des dizaines de papiers qui sont comme ça, sur les murs, au sol, et avec beaucoup, beaucoup de représentations et des images, etc. Et pour moi, la pensée s'est fait vraiment beaucoup, en fait, en... dans ces rapports entre les textes et les images, en fait. Même s'il n'y a pas tellement de images dans mes livres, souvent, parce qu'en fait, les éditeurs, ils n'aiment pas beaucoup, en fait, mettre des images. Mmh. Et parfois, il y a aussi la question des droits d'image. Mais moi, je pense beaucoup en rapport aux images, en fait. Notamment, par exemple, dans les cas des Testo Junkie, quand j'ai commencé, en fait, à penser à la transition entre les régimes disciplinaires de la sexualité, c'est-à-dire les régimes du 19e siècle avec des systèmes disciplinaires qui étaient plutôt des architectures extérieures, des sexo-squelettes, comme les institutions, voilà, l'hôpital, la caserne, etc., dans lesquelles s'est produisée la normalisation, la transformation, la production de sujets. Quand j'ai commencé à penser à la transformation vers cet régime contemporain que j'appelle pharmacopornographique, pour moi, était absolument fondamental de me retrouver avec énormément des images, y compris justement à un moment donné avec l'image d'un côté de panopticon, tel qu'avait été utilisé par Foucault, et tout d'un coup, en fait, l'image de les paquets des pilules, en fait, qui a été produit, en fait, dans les années 50. C'était crucial. Et dans ce sens-là, il faut dire aussi, parce que peut-être les gens ne le savent pas, que moi, j'ai vraiment une thèse de doctorat en architecture. Donc, ce rapport à la matérialité, pour moi, est crucial. Je suis vraiment, peut-être, ce qui caractérise le plus mon travail, c'est que je suis en train de penser pas uniquement, justement, les catégories du sexe et du genre, mais plutôt les technologies spécifiques des productions des sexes et des genres. Et dans ce sens-là, je suis comme un historien de la technologie.
Il nous reste très peu de temps, malheureusement. Il nous reste un dernier son à écouter ensemble. Nous allons aller en 2015, le 5 juillet 2015, à Athènes.
Des manifestations spontanées, des drapeaux grecs qui flottent au-dessus de la place Syntagma face au Parlement, des sourires d'espoir. Hier soir, la victoire du non était éclatante, inespérée pour les partisans de Syriza.
C'est une grande victoire pour l'Europe, pas seulement pour la Grèce. L'Europe des peuples, pas celle des marchés. C'est une date historique pour la Grèce.
Cet ingénieur avait les larmes aux yeux, il ne pensait pas vivre ce moment après la victoire de Syriza le 25 janvier.
Je suis plus content maintenant que le 25 janvier. Parce que maintenant, c'est le peuple grec qui a décidé de se libérer de tout ce nuage noir qui était imposé sur nous.
Le 5 juillet 2015, à Athènes, a lieu un référendum organisé par le gouvernement d'Alexis Tsipras. Est-ce que le peuple grec veut accepter les politiques d'austérité proposées par le FMI, la Banque Centrale Européenne? Le non l'emporte. Vous étiez présent à Athènes ce jour-là, Paul Preciado?
Oui, parce que j'étais invité à être commissaire de la Document 14, qui normalement a lieu à Cassel, mais que cette fois s'est déroulé en fait à Athènes et Cassel. Et donc, du coup, je faisais partie des groupes, des gens qui travaillaient à Athènes. Et donc, je me suis retrouvé en fait à la place Syntagma avec les gens. Et c'est là que j'ai vu en fait l'effondrement de la démocratie européenne. Et parce qu'effectivement, les noms de peuple grec n'ont pas été pris en considération. Et par la suite, en fait, ce qu'on a vu, c'était justement l'effet de cette politique d'austérité sur la Grèce. D'autant plus, en fait, qu'au même moment, il y avait l'arrivée des centaines des milliers des réfugiés, des migrants, en fait, qui étaient en train de traverser la Méditerranée. Donc, c'est vrai que pour moi, c'était un moment, justement, où je me suis dit, il n'y a pas que moi, en fait, qui suis en transition. Donc, je suis pas très sûr, en fait, effectivement. C'est pas que je suis pas très sûr, mais que je suis plutôt convaincu de ne pas être ni un homme ni une femme. Mais je n'ai pas du tout encore, en fait, une épistémologie dans laquelle, en fait, trouver des sens à ce que je suis. Mais il se passe la même chose, en fait, en politique. Je pense que c'est pour ça, peut-être, que les gens vont pas voter, en fait, parce que...
Ils sont en transition?
Parce que oui, on est en transition. On est en transition entre un régime politique qui ne fonctionne absolument plus et qui, du coup, ne représente pas ni les peuples ni les citoyens. Et on est en transition aussi, je pense, parce que la notion de citoyenneté avec laquelle on travaille, qui est souvent en fait rattachée à l'espace de l'État-nation, ne fonctionne pas non plus pour la condition des citoyens de la planète.
Donc on est en transition vers quoi?
Je pense qu'il faut transitionner en fait vers une citoyenneté planétaire, terrienne, Moi, je pense, enfin, ça va vous étonner pour la fin de l'émission, mais je pense que les extraterrestres, en fait, viendront très, très tôt. Et que ça va marquer, en fait, un point des différences radicales, en fait, avec l'histoire de la philosophie d'avant. Et que vraiment, enfin, notre condition n'est pas du tout la condition d'être français. On est tout simplement des vivants.
Pourquoi vous avez besoin des extraterrestres pour nous penser comme terrestres?
Ah, parce que je vois pas en fait comment ça fait des siècles en fait qu'on essaye de se penser en fait par rapport justement à l'identité nationale, à l'identité locale, alors que notre sol, les lieux qui pourraient éventuellement en fait nous donner quand même une identité globale, c'est la Terre.
C'est ça. Donc vous avez besoin des extraterrestres
non,
pour
non,
nous identifier en tant que terrestres.
Non, je dis pas. Moi personnellement, j'ai pas besoin en fait. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui me fascine depuis toujours en fait. En tout cas, et j'attends l'arrivée en tout cas bientôt des extraterrestres. Non, mais je dis ça en fait dans les sens politiques parce que je pense qu'effectivement ça pourrait éventuellement déclencher pour une fois en fait une prise de conscience planétaire.
Bien, magnifique fin d'émission, merci pour cette, je sais même pas, cette prophétie. Paul Preciado, votre livre s'appelle Un appartement sur Uranus, avec une préface de Virginie Despentes, on le trouve aux éditions Grasset. Merci beaucoup d'être venu nous parler de votre travail aujourd'hui.
Merci Adèle.
On se quitte avec Christine and the Queens, Walker. Avant de donner la parole à Géraldine, je précise, Paul Preciado, que vous serez au micro de Marie Richeux pour l'émission Par les temps qui courent, mardi, sur France Culture. On vous écoutera. Il est l'heure, pour l'instant, de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Vosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Vous revenez aujourd'hui sur une affaire polémique.
C'est une affaire qui déchire une famille entière, mais aussi médecins, juges et avocats et politiques depuis la fin des années 2000 et qui a connu encore jusqu'à ce lundi des rebondissements. C'est l'affaire Vincent Lambert, cas d'abord médical et privé, ce qui concernait au départ la vie d'un homme victime d'un grave accident de la route en 2008, tombé dans un état de conscience minimale et devenu une affaire médiatique, politique, juridique, mais aussi éthique et philosophique. En son cœur, la question comment, au nom de quoi et qui pour décider de la vie ou de la mort d'un être humain.
Voilà maintenant plus de 5 ans qu'à Reims, la vie de Vincent Lambert, 37 ans, est mise entre parenthèses. L'homme tétraplégique est dans un état totalement aphasique. À la suite d'une seconde procédure collégiale qualifiée de longue et minutieuse et incluant une partie de la famille, notamment l'épouse, l'équipe de médecins avait décidé de remettre en œuvre une procédure de fin de vie. Mais voilà que les parents ne sont plus d'accord et ont finalement décidé d'attaquer en justice la décision médicale.
Cette archive de janvier 2014 est l'un des premiers rebondissements de l'affaire Vincent Lambert. Comme il y en a eu d'autres sur lesquels se sont en plus greffés de nombreux discours, avocats, experts, associations, je vais essayer de revenir aux différentes implications philosophiques de cette affaire. Alors la première, il me semble, est celle qui concerne la décision d'arrêter ou pas les traitements d'un patient en état de conscience minimale. Arrêter ces traitements signifie prendre la décision de laisser mourir. Les prolonger signifie un maintien en vie. Mais quelle vie quand elle est maintenue à minima, de manière morbide et obstinée, et quelle mort quand elle est imposée au nom de la vie elle-même, d'une vie digne. La vie et la mort, valeurs contraires, semblent paradoxalement s'alimenter l'une et l'autre. La vie et la mort, valeurs absolues, sont ramenées à une réalité toute relative, dépendante de points de vue particuliers, de perspectives scientifiques et individuelles. Entre l'une et l'autre, qui s'exclut et s'interpénètre, comment trancher, à partir de quels critères décider ?
L'affaire Vincent Lambert n'est pas terminée. La cour d'appel de Paris a validé tard hier soir le recours des parents de cet homme de 42 ans, plongé dans le coma depuis 10 ans après un grave accident de voiture qui l'a rendu tétraplégique. Hier soir, la cour d'appel a ordonné la reprise des traitements de leur fils et donc de cesser la fin de l'hydratation et la sédation entamée hier. Antoine Marette, bonjour.
Bonjour Sophie.
Ce recours visait à faire exécuter les recommandations du Comité des droits de personnes handicapées de l'ONU.
Oui, c'était vraiment le recours de la dernière chance pour les parents de Vincent Lambert. Les chances que leur demande aboutisse semblaient vraiment minimes. Mais pourtant, hier soir, coup de théâtre, énième rebondissement. La cour d'appel de Paris ordonne la reprise des soins pour Vincent Lambert.
Entre la vie et la mort, comment choisir et comment choisir quand il s'agit d'une existence dont on ne parvient pas à définir le sens? Ces derniers jours, c'est rejouer la même opposition quant à l'arrêt ou pas des traitements de Vincent Lambert. Mais avec une autre donnée, et c'est la deuxième implication, celle de la qualification de son état. Jusque-là, Vincent Lambert était considéré comme un patient dans un état de conscience minimale. Pour suspendre la décision d'arrêter ses traitements, ses parents ont identifié son état à celui du handicap, invoquant par là même le droit à la vie de toute personne handicapée, ce que réfutent certains experts. Le problème est que l'on réfute aussi qu'il soit malade ou en fin de vie. Ni en fin de vie, ni malade, ni handicapé, l'enjeu est bien ici de dire ce qui concerne Vincent Lambert. De qui parle-t-on et à la place de qui ? Décider entre la vie et la mort n'est pas une question en l'air, mais indissociable d'un être humain. Or, de cet être humain, on dit tout ou rien. Comment dès lors prendre acte d'une décision pour quelqu'un dont l'existence est indécidable ? Comment parler pour lui sans parler à sa place, mais de sa place ?
Cette affaire est atroce et fait souffrir la France entière en plus de sa famille. Elle fait souffrir toutes les communautés religieuses, scientifiques, philosophiques. Nous ne savons pas, nous sommes dans un no man's land qu'aucun juriste au monde ne peut résoudre du matin au soir, qu'aucun éthicien au monde ne peut résoudre du matin au soir.
C'était la voix du professeur Emmanuel Alain Cabanis, président de l'Académie nationale de médecine, faisant sentir cette difficulté immense pour décider. Dans une tribune parue dans Le Monde ce 20 mai, un collectif de professeurs de médecine prône la délibération pluridisciplinaire. Ce qui ressort ainsi, c'est cette troisième implication concernant la valeur des discours de chaque acteur. La question de la vie et de la mort, celle de l'identité d'un être humain, celle de sa parole, sont des questions vastes. On peut en discuter, confronter les points de vue, mais on peut aussi les recouvrir d'interprétations équivalentes, toutes également valables et défendables. Qui pourra en vouloir à une mère de défendre la vie de son fils et à une épouse de le laisser mourir dignement ? Qui pourra réfuter un médecin qui préconise l'arrêt des traitements ou des comités juridiques de les prolonger ? S'il est évident de valoriser une éthique de la discussion, le problème est aussi là. Qui écouter pour décider ? Quel point de vue valoriser ? Et si on avait trop multiplié les points de vue et que l'on avait perdu de vue le sujet lui-même ?
Merci Géraldine pour cette chronique qui est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci également à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide tous les jours à préparer cette émission. Colomba Grossi, Elsa Le Saulnier, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui a réalisé cette émission pour vous ainsi que celles qui ont précédé cette semaine, Nasser Moussaoui qui était à la prise de son aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle semaine spéciale Bac Philo. Et oui, le bac approche, c'est l'heure de réviser. Que vous soyez élève ou parent, nous savons que l'épreuve de philosophie le jour du bac est source de terreur, quand elle n'est pas source d'angoisse. Les termes ne sont pas assez forts. Alors, sachez que dès lundi, on proposera à 3 professeurs de venir lundi, mardi et mercredi bûcher sur un sujet de dissertation susceptible de tomber le jour de l'épreuve et de vous livrer en 50 minutes eh bien, les résultats de leur analyse. Ce sera donc l'occasion de corriger un sujet et ainsi de vous préparer pour le jour J. Ça, ce sera lundi. D'ici là, vous pouvez réécouter les émissions de cette semaine sur le rêve ou celles d'aujourd'hui avec Paul Preciado en directement sur le site de France Culture ou bien en les téléchargeant, en les podcastant. Voilà, à lundi, 10h. On sera là. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.